Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est une fin de série et d'entretien sur ce rôle du portable chez les adolescents et puis au fond dans les familles, puisque ce portable envahit les familles aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi, Sophie de Lambert ?
Ah oui, on peut parler effectivement d'un envahisseur.
Et cet envahisseur qui peut conduire, comme vous nous l'avez nommé hier à plusieurs reprises, à ce grand risque de devenir vraiment addict et
oui,
donc après, à être en danger.
Après, l'addiction, on en parle dans des cas extrêmement précis, hein, où le besoin va prévaloir sur le désir. Et on n'a plus envie de se faire plaisir, on a besoin d'y aller.
Vous traitez aujourd'hui des cas de ce type dans votre cabinet ?
Alors non, moi je ne les traite pas, d'abord parce que je ne suis pas médecin et que c'est important. Et je suis ravie que vous me posiez la question d'ailleurs.
C'était volontaire.
Je ne suis absolument pas médecin et absolument pas formée et je n'ai pas les compétences pour ce genre de choses.
Donc vous
renvoyez. En revanche, je fais le relais. Et très souvent, les parents m'envoient des jeunes qui, effectivement, sont dans des excès comme ça pour lesquels je ne peux rien. Mais je vais essayer de faire prendre conscience à ce jeune qu'il a besoin de se faire aider et qui est souvent dans le déni. Et qui, au bout d'une, deux séances, va me dire « c'est vrai, vous avez raison, il faut que j'aille voir quelqu'un ». Et là, j'aiguille vers... il faut savoir quand même qu'on a un système de santé qui est très bien fait et qu'il y a des centres d'addictologie dans tous les centres hospitaliers. Et qui font très très bien leur travail.
Merci beaucoup, c'était une information importante je crois.
Oui, essentielle.
Essentielle, oui. Alors au programme, on va donner quelques solutions, si vous êtes d'accord.
Alors des solutions, oui, pour rassurer les parents.
Pour rassurer les parents et puis mieux vivre au fond avec ce téléphone portable au quotidien dans les familles.
Ah oui, je pense qu'on peut très bien vivre avec le portable aujourd'hui. C'est pas du tout antinomique avec une belle vie. Si on en fait un usage... raisonnable, la vie de famille peut très bien se passer. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir que le parent reste souverain de sa maison. C'est ce que je vous ai dit aussi cette semaine à plusieurs reprises. C'est le parent qui décide et qui a pour devoir et mission de poser des limites et des règles. Alors les limites, ça peut être très simple, hein, ça peut dire, vous savez les enfants, quand on rentre de la maison, on fait les 5 minutes canapé. Les 5 minutes canapé, on s'assied tous sur le canapé quand on est tous à la maison, sans portable, sans rien, et on se raconte notre journée. Et ça, c'est un moment pour réapprendre à s'écouter, s'entendre. Moi, je suis quand même effarée de voir qu'il y a des familles dans lesquelles les conversations restent factuelles. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti. Donc, mais ça s'apprend. Je peux comprendre très bien. Je comprends très bien que ça puisse exister, surtout si on a vécu comme ça soi-même en tant que parent quand on était enfant. En revanche, ça s'apprend de communiquer avec son jeune et de lui poser des questions, pas simplement sur ses résultats scolaires, mais lui poser des questions sur comment tu vas, comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que tu as des amis, quel genre de musique tu écoutes, quelle est ta matière préférée, si tu avais le choix, qu'est-ce que tu ferais demain.
Aller le chercher un petit peu quand même.
Oui, aller le découvrir. Parce qu'on est dans une société où tout va très vite, où on vous demande d'être parfait à plein de niveaux, où la société est exigeante, le quotidien que l'on s'impose est exigeant. C'est pas mal d'aller se défocaliser de soi pour se focaliser sur son enfant, parce que cette période d'adolescence où ils ont besoin de nous, c'est une période qui va passer vite, donc il est nécessaire de pouvoir les accompagner. Donc dans les solutions, si vous voulez, je vais continuer.
Pas si je veux, c'est que c'est le but aussi de ce dernier volet d'entretien dans la série. Et merci.
Alors, j'ai pas le temps aujourd'hui de parler de Serge Tisseron dans sa totalité. Pourtant, c'est un grand monsieur, Serge Tisseron. C'est un monsieur qui a beaucoup écrit sur l'utilisation des portables et qui va fixer des règles sur l'utilisation du portable à 3 ans, 6 ans, 9 ans et 12 ans. Il explique par exemple que les écrans ne doivent pas rentrer dans la vie d'un enfant de moins de 3 ans Et si à l'âge de 3 ans, vous avez envie de montrer une tablette à votre enfant, il faut être avec lui parce qu'il a besoin de se construire spatio-temporellement. Et face tout seul à un portable, c'est dangereux. Un portable, un écran. Alors les parents sont très très fiers de montrer que leur enfant maîtrise parfaitement l'objet, sauf que très souvent, l'enfant le fait seul. Donc du coup, il n'est pas aiguillé. Et s'il n'est pas aiguillé, c'est pas très bon.
Donc, c'est la question de l'accompagnement.
D'accompagner son enfant en douceur, lui expliquer ce qu'il va y voir, ce qu'il va y faire, et privilégier tout ce qui est jeu, tout ce qui est jeu en interaction. Ou jeux créatifs. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées maintenant sur les écrans, mais pas le laisser seul avant l'âge de 9 ou 12 ans sur ces écrans. Ça, c'est pas terrible du tout. D'autres conseils ? On parlait de réseaux sociaux cette semaine. Les réseaux sociaux, c'est important sur Facebook, par exemple. Alors, je donne Facebook, c'est un exemple extrêmement concret, parce que moi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Il est important de ne pas être l'ami de votre enfant. Voilà. Ce n'est pas parce que vous aimez votre enfant, votre adolescent, qu'il faut être ami avec lui sur Facebook. Vous n'êtes pas son ami. Vous restez parent et le parent n'est pas un ami. Cette différence transgénérationnelle, pour moi, est primordiale parce que si vous devenez son ami, ça veut dire qu'en fait, finalement, vous faites un petit peu de l'intrusion dans sa vie d'adolescent où vous n'avez rien
donc,
y faire.
Donc, au fond, on ne respecte pas un peu son journal intime.
Alors, il faut respecter son jardin intime, son jardin secret. Et puis, surtout, se rendre compte que le travail de l'adolescent, c'est de se séparer de ses parents et surtout... Du coup, de ne pas être son ami.
Donc, au fond, de lui faire confiance.
Bien sûr.
Et non pas de le fliquer, parce que c'est peut-être aussi un peu la tentative du parent en voulant devenir sur Facebook l'ami de son enfant.
Oui.
De surveiller.
C'est pour ça que je parlais d'intrusion et de côté intrusif tout à l'heure.
Donc, il faut travailler peut-être cette relation de confiance.
Oui, vous lui faites confiance et lui faire confiance, c'est lui... Et c'est accepter qu'il se développe sans vous. Le rôle des parents, c'est de donner des racines et des ailes. Une fois qu'on a donné des racines, à nous de leur donner des ailes.
Joliment dit.
Parler avec son enfant de ce qu'il fait et ce qu'il voit, les amener à réfléchir sur ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut faire et quelles sont les dérives aussi de tous ces réseaux sociaux. Parler aussi du harcèlement, de ce qu'ils pourraient rencontrer, de la pornographie, essayer aussi de développer chez lui cette faculté de critiquer ce qu'il y voit. Parce que dans l'usage d'Internet, par exemple, dans cet accès à cette bibliothèque énorme, il faut savoir que tout ce que vous mettez sur Internet ne disparaît jamais, que tout ce que vous y voyez n'est pas vrai. Et ça, les enfants ne le savent pas forcément. Donc, encourager les activités de la vraie vie. Demander à son enfant de... Moi, j'aime bien... J'avais un jeune, la dernière fois, qui m'expliquait que ses parents avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient mis en place un petit journal dans lequel ce jeune adolescent de 11 ans écrivait ou faisait la liste des heures passées sur son portable et ce qu'il y avait fait. Et du coup, ça lui permettait en fait de prendre du recul par rapport à son utilisation. Et lui-même était assez sévère en disant non, mais ça fait trop parce que du coup, je vois plus mes amis, je fais plus de sport, c'est tellement facile et je suis tellement dans le plaisir que finalement, plus rien n'existe.
Donc, il était en capacité d'une autocritique.
Oui, tout à fait. Alors, et puis pour terminer, je dirais que éteindre son portable une heure avant de se coucher, c'est bien.
Ah oui.
Et puis essayer de limiter son portable à 1 à 2 heures par jour et non pas 3, 4, 5, 6 heures.
Donc ça, vous permettez, mais c'est dans l'idéal.
Bien sûr.
Ouais.
Tout ça, on est d'accord que c'est de la théorie.
On est d'accord.
C'est comme, vous savez, quand on est prof et qu'on essaye d'être un professeur parfait, il y a la théorie puis la pratique, mais je pense qu'il y a certaines de ces choses que l'on peut quand même mettre en place. À partir du moment où vous passez à table, par exemple, éteindre son portable jusqu'au moins la fin du repas.
Merci beaucoup Sophie de Lambert, et puis je rappelle à tous nos auditeurs que nous terminons donc cette série qui était consacrée au téléphone portable, et nous consacrerons certainement d'ici quelques semaines, voire quelques mois, une autre série autour des écrans, si vous voulez bien, Sophie de Lambert.
Oui.
L'invitation est lancée, et comme l'invitation aussi à tous les auditeurs fidèles de la radio aussi à soutenir pendant cette période du Radio Don qui s'achèvera donc aujourd'hui notre radio pour poursuivre un peu cette mission. Voilà. Merci Sophie de Lambert.
Merci Nathalie.
À bientôt. Au revoir.